Radion, le top de la pop. Radion.
You can make a grown man cry if you ever said goodbye. Never let you go. You can make a grown man cry if you ever left my side. Never let you go.
Bonjour à tous, je vais demander à la technique qui me laisse un petit peu le retour du cartoucheur, merci. Et je vous rappelle, toujours à l'écoute de Radion, je vous l'ai promis, on a des invités aujourd'hui, l'adjudant-chef Bruno Nirlo. Bonjour Bruno. Ah, il n'a pas ouvert le micro. Rebonjour Bruno. Ah, il ne marche pas. Alors, t'as dû pas taper. Regarde si les boutons sont appuyés, je vais mettre à la technique. C'est notre ami Victor qui est à la technique aujourd'hui. Bon, bonjour Victor.
Et Rachel.
Rachel qui est également avec nous pour parler de l'intégration au sein de l'armée de terre. Rachel, bonjour.
Bonjour.
Rachel, est-ce que tu peux nous dévoiler, si tu le désires, ton âge ?
J'ai 24 ans.
Bruno, c'est à partir de quel âge qu'on peut s'engager au sein de l'armée de terre ?
Alors, on peut signer un contrat à partir de 17 ans et demi.
17 ans et demi et jusqu'à 90 ans, non ?
Non, moins de 32 ans.
Est-ce qu'il y a des critères d'âge par rapport aux différents grades si on veut intégrer l'armée de terre ?
Oui, il y a des critères d'âge par rapport, non pas aux grades, mais aux catégories, militaires du rang, sous-officiers ou officiers.
On continue à parler du CIRFA qui est situé à Auxerre avec notre nouvelle impétrante au niveau de l'armée de terre. Dans l'instant, on repart en musique et on se retrouve dans un petit moment.
Radion. Radion.
I've been dreaming friendly faces. I've got so much time to kill. Just imagine people.
La matinale sur Radion.
11h20 sur Radion et toujours avec moi les invités, les représentants du CIRFA 89 en la personne de l'adjudant-chef Bruno Nirlo. Rebonjour.
Rebonjour à toutes et à tous.
Et j'ai Rachel sur notre micro. Rebonjour Rachel.
Rebonjour.
Alors Rachel, si tu mettrais le micro en face de toi, ça serait un petit peu mieux. Merci. Rachel, rappelons-le, tu as 23 ans.
24 ans.
Ah oui, c'est vrai. Tu es titulaire du bac européen,
oui.
Mais il a été obtenu en Belgique. Pourquoi ? Il est différent qu'en France ?
Alors ben justement, c'est un baccalauréat européen, c'était dans une école européenne. Et donc j'ai suivi en fait ma scolarité à l'étranger. Et du coup j'ai fait le lycée en fait en Belgique et du coup j'ai passé le bac là-bas.
Et puis je veux aussi que tu es allé aux États-Unis ?
Oui, j'ai fait mes études effectivement universitaires aux États-Unis.
Et pourquoi ? Parce que c'était une volonté ou c'était suite au déplacement de tes parents?
Alors c'était suite entre autres au déplacement de mes parents, donc du coup j'ai grandi en ayant ma scolarité en anglais. Donc du coup je suis partie dans des pays anglophones pour continuer cette scolarité.
Après tu as été palefrenier.
Oui.
C'est quoi
palefrenier. Ça Alors palefrenier, c'est en fait je m'occupais des chevaux dans une écurie.
D'accord.
Aux États-Unis et donc du coup j'étais à dresser les chevaux, à nettoyer les écuries, etc. Enfin à aider à faire fonctionner les écuries. En fait.
Ouais, ça fait, tu fais un peu comme notre stagiaire, tu passes le balai. Tu passes, voilà. Voilà. Pourquoi tu es fan d'équitation?
Oui, oui, j'ai grandi avec ça et j'ai toujours aimé les chevaux. J'aime beaucoup.
J'ai vu que tu as quand même une sacrée expérience puisque tu as été aussi bénévole dans un hôpital.
Oui, oui, effectivement. J'étais dans les soins intensifs. C'était les soins intensifs de l'hôpital et en fait j'étais juste secrétaire et donc je recevais les appels s'il y avait des personnes qui arrivaient en urgence. Ou...
Et ça c'était en France?
C'était aux États-Unis aussi.
Aussi. Donc tu as une bonne expérience des États-Unis.
Oui. Oui.
Tu es revenu en France et tu as pratiqué aussi le football, mais c'est un chemin incroyable.
J'ai fait un peu de foot, principalement en Belgique, dans un petit club dans la ville où j'habitais, et puis après aux États-Unis aussi également.
Du foot américain?
Ah non, pas du foot américain, c'est du foot bien européen.
Le ballon, c'est le même, non?
Le ballon, c'est le même qu'on utilise, nous.
D'accord. J'ai vu aussi que tu as été intégré au sein de l'École nationale de sous-officiers,
oui,
en 2020.
Oui.
Alors ça, c'est la suite de ton bac?
Alors, c'est plusieurs années après, parce que moi, j'ai eu mon bac en 2014.
Est-ce que tu as voulu intégrer l'armée après ton bac pour être sous-officier? Ou est-ce que tu avais déjà... avant le bac, l'intention d'intégrer l'armée de terre?
J'avais déjà pensé au lycée, à l'armée, et puis après je suis partie faire mes études. Et du coup finalement j'ai décidé en fait après mes études universitaires de le faire, mais c'est quelque chose qu'on peut faire effectivement juste après le bac.
C'est une garantie que tu voulais avoir dans ton sac?
Oui, enfin c'était. Je pense que j'avais aussi l'influence familiale qui voulait que je fasse des études aussi. Et donc je me suis lancée et puis c'était des études assez passionnantes. Donc du coup.
Est-ce que tu savais, avant d'intégrer l'armée de terre, que tu pouvais effectivement avec le bac obtenir un poste de sous-officier?
Non, pas particulièrement. Non, je ne savais pas.
Donc c'est le CIRFA qui te l'a enseigné?
Oui, voilà, c'est ça.
Est-ce que tu étais là, à ce moment, sur les terres auxerroises pour aller rendre visite au CIRFA 89?
Alors moi, j'ai tout fait par téléphone.
D'accord.
Surtout que c'était pendant la période Covid. Ouais. Du coup, j'étais dans le coin et puis je travaillais aussi, je suis partie travailler dans le sud. Mais on a tout fait par téléphone et ça s'est très bien passé.
Même ça, c'est un peu du virtuel.
Oui.
Donc tu savais pas la réalité des choses. Est-ce que tu avais pas une appréhension
de rencontrer, vous voulez dire, en personne ou de...
Oui, d'aller dans les locaux du CIRFA.
C'est un peu stressant au départ, je pense.
Ah voilà.
Mais j'ai eu de la chance. Je suis tombée sur de très bons recruteurs. et donc ça s'est très bien passé. C'est sûr qu'évidemment il faut se motiver un tout petit peu pour y aller si on a un petit stress.
Ça c'était lors de la période du Covid, c'est-à-dire confinement absolu au sein du territoire français. Oui. Est-ce que cette entrevue s'est fait complètement par téléphone?
Oui, alors pour moi j'ai fait vraiment tout par téléphone. C'était vraiment tout. On a décidé sur par exemple la spécialité, etc., les informations. C'était vraiment en faisant par téléphone.
Très bien Rachel, eh bien, on repart en musique dans l'instant, on se retrouve dans un petit moment et je vous rappelle, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler au 03 86 46 50 50 et à vous rappeler aussi qu'il y a un site internet où vous pouvez découvrir toutes les spécialités de l'armée de terre et voir comment y accéder. C'est tout simplement soldatinfo.fr. A de suite.
Electro Pop Radion. Radion. La matinale sur Radion.
11h32 sur Radio On est toujours avec mes invités en la personne du représentant du CIRFA 89, l'adjudant-chef Bruno Nirlo, qui est toujours avec nous. Je l'espère. Rebonjour.
Rebonjour à toutes et à tous.
Et puis, d'un soldat, c'est Rachel. Alors, Rachel, est-ce qu'on dit un soldat ou une soldate ?
Un soldat.
Un soldat.
Ça reste un soldat.
Rachel, tu es partie faire une formation de 8 mois de sous-officier. Comment tu en ressors ?
Eh bien, j'en ressors très contente. Ça se passe très bien.
Sous-officier, pour ceux qui sont un peu néophytes au sein de l'armée de terre, sous-officier, ça commence par quel grade ?
Sergent.
Sergent. Donc là, tu es sergent ?
Pas encore.
Ah, pas encore.
On a bientôt fini la formation, mais on n'a pas encore terminé. Donc, on aura les galons, normalement, dans 2 mois.
Est-ce que c'est une formation qui est difficile ?
Ça dépend sur quel point de vue. Hein.
Mais on sait qu'il y a le sport, on sait qu'il y a de l'administratif aussi.
Oui, alors il y a un côté un peu plus académique, si on peut dire. Donc, il y a effectivement le sport, de la théorie qu'il faut apprendre. On a par exemple de l'anglais aussi. Donc par exemple, on peut très bien avoir des facilités dans une certaine matière, si on peut dire, comme par exemple l'anglais, et avoir un peu plus de difficultés dans d'autres secteurs.
Quelle a été la matière la plus compliquée pour toi ?
Alors pour moi personnellement, je pense que c'est plutôt le sport. C'est un peu plus difficile, voilà. Donc
c'est vrai qu'il vaut mieux être sur un cheval plutôt que courir après.
Ah ouais, c'est sûr que c'est pas la même chose. Mais évidemment, on fait des efforts et on donne du sien et ça passe quand même.
Et quelle a été la matière la plus facile ?
Pour moi, c'est l'anglais.
C'est l'anglais. Je pense aussi qu'il y a eu le maniement de l'arme. Est-ce que ça a été compliqué à comprendre ?
Alors moi, j'ai de la chance parce que du fait d'avoir été aux États-Unis, j'ai déjà eu l'opportunité de travailler, de manipuler un peu de l'armement. Je sais que pour d'autres, c'était peut-être un peu plus tout nouveau, donc c'est peut-être un peu stressant au début, parce qu'il y a beaucoup quand même de réglementations avec.
D'accord.
Mais de manière générale, je pense que ça se passe très bien pour tout le monde.
Il y a l'armement, il y a le sport, il y a le combat aussi.
Il y a le combat, oui, aussi.
Pour une femme, c'est compliqué, le combat ?
Non, c'est comme tout le monde.
En face d'un homme ?
Alors après, ça dépend ce que vous parlez. Vous parlez de quel combat, parce que...
Non, le combat, le corps à corps.
Le corps à corps.
Ouais, la défense, j'allais dire, le combat de défense.
Oui, c'est très technique. Je connais pas trop. Enfin, après, moi, j'ai pas eu personnellement l'opportunité de trop travailler avec ça, mais ça, je peux pas trop répondre à vos questions.
Non, parce que quand on voit Rambo, ça fait quelquefois un peu peur.
Ah, oui, ça. Après, on n'est pas du tout dans le même.
Dans l'avenir, comment tu te vois au sein de l'armée ? Quelles sont tes ambitions ?
Alors, moi, j'aimerais par la suite, au niveau de la formation, on a l'opportunité dans quelques années de passer par exemple le concours pour passer officier. Et donc, ça m'intéresserait éventuellement de passer par là. Après la formation, dans l'immédiat en tout cas, on part pour la généralité, on part dans des régiments.
D'accord.
On a un choix de régiment à la fin de la formation. Et c'est sur classement. Et pour moi personnellement, ma spécialité, on continue une formation derrière. Donc on a encore, pour moi c'est 2 ans. J'ai encore 2 ans de formation derrière avant de pouvoir après être en régiment.
Comment sont tes formateurs ?
Ils sont très bien.
J'ai reçu un appel tout à l'heure de ton père qui m'a dit qu'il serait heureux que tu sois général. Mais ça, on verra après. Rachel, donc cette école de sous-officier, est-ce qu'après tout le reste donc de ton cursus se fera en France ou également à l'étranger ?
Non, eh bien, quand vous dites cursus, vous dites...
Jusqu'à, je sais pas moi, capitaine, etc.
On a évidemment l'opportunité de partir en OPEX, on nous parlait...
Ouais. Alors OPEX, ça veut dire opération extérieure.
Et opération extérieure, c'est ça, exactement. Donc on part pour quelques mois, ou on ne sait pas exactement forcément combien de temps, mais effectivement, pour dans le petit théâtre d'opérations étrangers, là où l'armée française travaille.
Alors je me fais un peu l'avocat du diable, ça te fait pas un petit peu peur par rapport à l'actualité ? On le voit sur le Mali.
Peut-être que ça devrait faire peur, peut-être que je n'ai pas assez conscience, je ne sais pas, mais personnellement, moi j'ai plus hâte qu'autre chose de partir à l'étranger avec l'armée.
Pour découvrir, hein, puisque tu as déjà eu l'occasion de partir à l'étranger sur des pays en paix, bon, les États-Unis, la Belgique, mais là on sait que c'est des continents complètement différents, c'est tout à fait un autre mode de vie. Tu as l'air d'être une aventurière.
Oui, oui. J'aime bien découvrir en plus de ça, et ça vient aussi à nouveau avec la spécialité que j'ai choisie. Je suis passionnée par tout ce qui est les cultures étrangères, les langues étrangères, et donc effectivement, moi, ça me motive énormément de partir en fait aussi.
Bon, Rachel, n'aie pas peur avec mes questions, on se retrouve dans un moment. Dans l'instant, on part en musique sur Radion.
Radion, Radion, pop, électro.
The legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
La matinale sur Radion.
Tout juste 11h47 minutes sur Radion et toujours l'adjudant-chef Bruno Nirlo du CIRFA. Alors le CIRFA, c'est le centre d'information et de recrutement des forces armées. Et il est directeur régional du centre de Lyon. Et j'ai toujours Rachel avec moi. Rachel, est-ce que tu es fan de jeux vidéo ?
Eh ben oui, en fait, oui, j'aime bien les jeux vidéo. Oui.
Je te reconnais dans Lara Croft. Est-ce que ça te rend comme un personnage ? Non,
pas tout à fait. Mais...
Alors, cette école de sous-officiers, elle se termine. Est-ce que tu pars en opération après par la suite ? Mais quel délai faut-il entre le moment où tu sors de l'école de sous-officiers pour engager un chemin vers l'école d'officiers ?
Avant de pouvoir passer à l'école d'officier, je connais pas exactement.
Oui, Bruno.
À partir de 3 ans, le jeune sous-officier au militaire du rang peut faire le concours officier.
Donc
c'est
il faut
ce
un
qu'on
délai.
Appelle chez nous l'escalier social.
Maintenant, sur quel métier tu t'engages ?
Alors moi, je me suis engagée en tant que linguiste.
Donc j'ai vu que tu voulais apprendre l'arabe.
Oui, c'est ça.
Pour aller donc à l'extérieur et essayer d'être, traductrice.
Alors non, c'est pas. Alors on fait de la traduction, mais en fait c'est surtout de l'écoute. Donc c'est de linguiste d'écoute.
D'accord.
En fait, on écoute en fait.
Oui, toutes les conversations qu'il peut y avoir. Et au niveau de l'école de sous-officiers, est-ce que tu as appris les éléments numériques actuels, que ce soit donc effectivement pour l'écoute, pour la vidéo, pour les drones, etc., etc., tout ce qui est numérique au sein de l'armée de terre ?
Alors, donc l'école des sous-officiers, en fait, c'est plutôt général. Donc, en fait, on n'est pas encore dans la spécificité de ma spécialité. Pour l'instant, c'est vraiment le métier de base de soldat qu'on apprend, le métier de sous-officier. Et donc là, on a non seulement, par exemple, des linguistes comme moi qui sont dans l'information, mais on a aussi, par exemple, des personnes qui vont partir dans l'infanterie ou dans les ressources humaines. Donc, on a vraiment une panoplie de différentes spécialités qui sont en train d'être formées. Sur le métier de base qui est le métier de militaire.
C'est-à-dire que lorsque tu fais l'école de sous-officier, tu apprends à être gradé donc à ce style donc de sergent pour pouvoir gérer un groupe,
oui,
un
voilà,
nombre
un groupe
de personnes, 10 de 10 hommes, oui. Mais tu n'es pas encore dans ton métier que tu aurais choisi pour pouvoir continuer.
Voilà, voilà. On n'est pas encore dans la spécialité, parce que moi, après, j'ai une formation, pour moi, par exemple, c'est une formation de 2 ans mmh. qu'on a après. Et je crois que c'est, si je me trompe pas, c'est une des formations les plus longues, c'est ça hein.
D'accord.
Et donc voilà, donc là on est vraiment sur apprendre à commander des hommes et apprendre évidemment à manipuler des armes, à mener un combat, etc. Donc c'est vraiment...
On revient un petit peu en arrière, est-ce que tu n'avais pas une appréhension entre donc, le féminisme et le masculin pour rejoindre l'armée?
Non, pas particulièrement.
Pas vraiment. T'es un petit peu un garçon manqué, non?
Peut-être, je ne sais pas, non, je pense pas, mais non, pas particulièrement.
Est-ce que tu continues dans la même école ou tu changes de secteur pour apprendre ton métier de linguiste?
Alors effectivement, moi après je vais à l'école à Strasbourg.
D'accord.
Donc, donc je pars en formation là-bas pour les 2 prochaines années.
Je reviens vers l'adjudant-chef. Pour avoir cette opportunité de rejoindre le métier de linguiste, est-ce qu'il faut avoir des niveaux scolaires?
Alors pour rejoindre la spécialité de linguiste d'écoute, que ce soit dans les langues arabes, chinois ou russes, il faut un bac, que ce soit un bac général, technologique ou professionnel. Ensuite, le jeune passera des évaluations, ça pourra déterminer quel est son profil par rapport au métier de soldat et s'il a les aptitudes pour être formé comme linguiste d'écoute.
C'est quand même une spécialité qui est rare. Combien de soldats sont à l'heure actuelle à l'armée dans cette spécialité ?
Alors, dans cette spécialité, je n'ai pas la réponse à cette question parce que j'ai pas les chiffres, mais par an, on en recrute une quinzaine de linguistes.
Pourquoi ? Parce que c'est compliqué comme formation, Rachel ?
Du coup, je connais pas encore exactement la formation de linguiste, mais je pense que on a différents tests, en tout cas pour devenir linguiste, on a des aptitudes, des tests d'aptitudes aussi de... Il y a un terme spécifique pour ça dont je me souviens plus, mais oui, donc il y a des tests spécifiques qu'on doit passer aussi pour faire le métier de linguiste.
C'est quand même un avantage d'avoir déjà appris certaines langues, puisque
oui, voilà.
Tu connais combien de langues?
Alors moi, je parle anglais, espagnol couramment et je connais un petit peu l'italien, mais très peu. Mais donc, c'est plutôt en fait la capacité à apprendre des langues, je pense, qui est importante pour faire linguiste. Et donc, effectivement, d'avoir appris des langues étrangères, ça aide. Mais c'est surtout cette capacité en fait à apprendre une langue. Et donc, on teste cette aptitude en fait.
Est-ce que ça, tu l'as découvert en intégrant l'armée de terre ou tu avais déjà en mémoire de faire ce métier-là?
Alors moi, je savais pas du tout que ça existait. Linguiste dans l'armée de terre, c'était vraiment en discutant avec le CIRFA que j'ai découvert ça aussi je savais que ça existait parce que j'avais vu en faisant l'université aux États-Unis, j'avais vu beaucoup de pubs, ils font énormément de pubs aussi pour l'armée là-bas et j'avais vu qu'effectivement ils avaient des linguistes, donc je me doutais qu'on devait sûrement avoir quelque chose comme ça en France c'est effectivement en parlant plus avec les représentants du CIRFA que là j'ai découvert ça et que ça, je me suis dit que je voulais partir dans cette direction-là.
L'adjudant-chef, est-ce qu'il y a comme ça des métiers un petit peu cachés?
Non, ce ne sont pas des métiers cachés. Justement, nous on met en avant le fait que les jeunes puissent avoir cette information comme la spécialité de météorologiste, de moniteur de sport, de moniteur d'auto-école, d'aconier, ceux qui participent au chargement, déchargement des bateaux et qui vont faire un débarquement sur les plages. On a un panel de 100 spécialités et notre travail vraiment consiste à donner cette information aux jeunes pour qu'ils ne restent pas sur des représentations mais qu'ils aient la réalité de ce qu'on peut leur proposer.
J'ai une question qui sort complètement du contexte à la rigueur. C'est vrai qu'on parle quelquefois de la Légion étrangère. Quelle différence y a-t-il entre la Légion étrangère et l'armée de terre?
Alors, la différence, c'est que quand on rentre dans l'armée de terre, il faut être de nationalité française. Mmh. Et la Légion étrangère, tout étranger peut y rentrer.
Ouais, il faut être simplement de nationalité française pour rentrer dans l'armée de terre.
Dans l'armée de terre et dans la Légion étrangère, n'importe quel étranger peut y rentrer.
Une personne qui a double nationalité, est-ce qu'elle peut rentrer au sein de l'armée de terre?
La personne qui a la double nationalité française et autres devra choisir la nationalité française.
Ah, il faut que ça désiste donc de...
Tout à fait, comme aux États-Unis, c'est la même chose.
Ok, c'est bon à savoir ça. Maintenant, puisqu'on arrive pratiquement à la fin de l'émission, Rachel, on le sait maintenant, tu comptes partir dans ce métier de la langue. Tu restes simplement sur apprendre l'arabe ou tu comptes encore te développer sur d'autres langues?
Bah, après, on...
Il y a le chinois, il y a...
Ah, oui, effectivement, mais après le chinois, c'est tout entièrement différent, c'est pas facile non plus. Et il y a toute une formation aussi, d'ailleurs, pour le chinois. On peut aussi intégrer en tant que linguiste.
Et là, c'est une formation pour l'arabe de combien de temps, tu m'as dit?
Donc là, c'est 2 ans. Et je sais pas.
Ah oui, quand même.
Oui, et pour le chinois, c'est 3 ans.
Oui, donc.
Il y a des petites différences.
Quand tu seras général, peut-être, tu arriveras en
connaissance. Alors là, déjà, il faut y arriver à général. Je peux rien vous garantir de ce côté-là.
Oui, Bruno.
Alors, il faut savoir que l'armée de terre propose des certificats militaires de langue pour n'importe quel soldat qui décide de dire, tiens, demain, je ferai bien un certificat militaire de langue en allemand, en espagnol. Ou... Donc, c'est des formations qui sont mises en place durant son cursus professionnel. Donc, on offre vraiment la possibilité aux jeunes qui veulent s'épanouir. Bon, pour Rachel qui a choisi l'arabe, si demain, elle veut se mettre au chinois, elle s'inscrira et puis elle aura des cours qui lui seront portés par l'institution.
Rachel, pourquoi avoir choisi l'armée pour obtenir ce métier plutôt? On peut le faire aussi dans le civil.
Oui, c'est vrai. Moi, ça découle de mes études. Enfin, moi, j'ai fait donc des études en sciences politiques, axées justement sur la stratégie militaire. C'est quelque chose qui m'a passionnée depuis le début de mes études et même avant. Et je pense que ça suivait, en fait, c'était la suite logique pour moi, en tout cas après mes études, de rentrer dans l'armée, en fait. Et c'est vraiment pour ça, d'ailleurs, que je suis rentrée en France, parce que j'ai terminé mes études, je suis rentrée en France parce que je voulais justement faire l'armée et ne sachant pas forcément quelle spécialité je voulais faire, je savais juste que je voulais être soldat au service de la France, et donc du coup je suis rentrée, j'ai fait ça.
Est-ce que le CIRFA est de bons conseils?
Oui, je pense que moi j'étais très reconnaissante d'avoir toutes les informations que j'ai eues au travers de mon CIRFA et d'avoir le soutien aussi pendant toutes les procédures, pendant les tests qu'on a passés, parce qu'on a évidemment les tests que tout le monde passe, et puis les tests d'aptitude aussi pour linguistes et tout ça. Moi, je me suis sentie bien soutenue et informée.
Lors de ton cursus au sein de l'école de sous-officiers et après ensuite au niveau d'officier, est-ce que le CIRFA où tu t'es engagé, où tu as tapé la porte, reste référent?
Moi, j'aime bien, en tout cas, rester en contact avec eux. c'est vrai qu'on a l'opportunité de partager différentes choses au cours du cursus. Hein.
Alors, mon adjudant-chef, est-ce que vous restez référent du soldat?
Je dirais pas référent. Nous, on propose aux jeunes, parce qu'on l'accompagne quand même dans le processus du recrutement, le moment où il pousse la porte, on lui donne l'information, il passe en évaluation. Ensuite, il revient, il fait ses choix. Nous, on l'invite après à nous contacter, à reprendre contact avec nous pour qu'on puisse échanger sur ce qu'ils ont fait, leurs ressentis, qu'on puisse nous aussi mettre à jour nos fiches, nous améliorer dans notre travail et donner l'information au plus juste. Parce que, comme on le dit chez nous, c'est eux qui ont la réalité du terrain. Donc, que ce soit Rachel ou Pierre qui est déjà passé ici, ou Aurélie qui était venue aussi il y a quelques temps, on a la réalité du terrain, et derrière nous, ça permet de donner un travail de qualité et donner la réalité aux jeunes qui poussent la porte. Et on les invite, moi ça fait 37 ans que je suis militaire, ça fait 21 ans que je suis dans le recrutement, les jeunes que j'ai recrutés il y a une vingtaine d'années sont devenus, je peux dire aujourd'hui, des amis pour certains.
Voilà, donc vous restez quand même en relation et tout.
Tout à fait.
Lorsque un soldat est refusé en cours de son cursus à un certain moment, ça peut être pour, je sais pas, un accident ou autre, donc il est obligé de quitter l'armée de terre. Est-ce qu'il est repris en charge par les CIRFA?
Alors, on a plusieurs cas. Il y a le jeune qui s'en va de lui-même. Il peut revenir, on peut refaire une procédure. Là, ce mois-ci, on a eu un jeune qui avait déjà signé un contrat, qui s'est blessé. Donc, son contrat a été annulé. Il est retourné se faire soigner. Et il va re-signer bientôt dans le régiment dans lequel il était déjà. On donne cette opportunité aux jeunes de pouvoir rebondir. Bien sûr, si l'aptitude médicale est définitive, là, le jeune, il ne pourra plus rentrer.
Rachel, sur combien d'années tu t'es engagée?
Moi, je me suis engagée pour 8 ans.
8 ans.
Oui. Après, je sais qu'il y a d'autres...
Adjudant-chef, quelles sont les opportunités d'engagement?
Alors, aujourd'hui, on peut signer un contrat d'1 an, de 3 ans, de 5 ans ou de 8 ans.
8 ans. Et pas 10 ans. C'est 8 ans renouvelable.
Il y a encore un mois, 10 ans.
Alors, est-ce que ça rentre en CDD ou en CDI?
Alors, en CDD. Une grande partie, c'est en CDD. Après, en CDI, ce sont les personnes qui vont rentrer après une prépa ou sur titre.
On peut rappeler les coordonnées du CIRFA?
Bien sûr, le CIRFA, vous pouvez nous joindre en passant par le site s'engager.fr ou directement par téléphone au 03 86 72 72 72.
Donc on rappelle le site s'engager.fr et 03 86
72 72 72.
Il est facile. En ce moment, avec le confinement actuel, est-ce que le CIRFA est toujours ouvert?
On fonctionne normalement, vous pouvez nous appeler, on va vous recevoir tout en respectant bien sûr les gestes barrières.
C'est-à-dire vous avez du gel militaire, des masques militaires?
On a du gel camouflé, des masques camouflés.
Adjudant-chef, merci d'avoir participé
merci
à cette
vous.
Émission. Rachel, bon courage.
Merci.
J'espère qu'on aura de tes nouvelles bientôt. Et merci d'avoir participé également à cette émission.
Merci de m'avoir reçu.
Merci à vous d'avoir été présents pour ce mercredi matin. On se retrouve demain dans l'instant. C'est les infos nationales et internationales.